l'actualité des mots et des idées aujourd'hui. Nos pensées seront-elles bientôt jugées? On en parle avec l'écrivain et réalisateur Ilan Duran-Cohen, auteur du roman Le Petit Polémiste chez Actes Sud. Un roman dont le héros est polémiste d'État, c'est-à-dire qu'il fait profession d'impertinence contre la bien-pensance. Jusqu'au jour où, pour une blague de trop, un propos sexiste dans un dîner entre amis, sa vie va basculer. Une satire qui interroge le conformisme ambiant, celui d'une époque qui note, qui juge et qui condamne de plus en plus facilement. Après le développement personnel, le marketing, le carriérisme, notre invité continue à travers la fiction à interroger nos identités individuelles et collectives et les dérives d'un système, d'un capitalisme, pourrait-on dire, peut-être de plus en plus absurde. Bonjour Ilan Duran-Cohen.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Polémiste, polémiste, polémiste d'État. En quoi consiste le job ?
Oui, bon, c'est vrai que le polémiste d'État, c'est-à-dire on reconnaît la profession de polémiste, on reconnaît le fait qu'il faille de temps en temps des gens qui interpellent, mais on n'a pas envie de les avoir en face, donc on veut contrôler la contradiction, d'une certaine façon, dans une époque de pensée unique et de bien-pensance. Donc c'est un petit peu un boulot hypocrite là que j'ai inventé, un polémiste d'État, mais peut-être qu'on y arrivera assez rapidement, ou peut-être que ça existe déjà, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis un peu rattrapé par l'anticipation dans mon roman, quoi. J'ai commencé à l'écrire en 2017 et finalement, il n'y a pas d'anticipation aujourd'hui, j'ai l'impression.
Ça s'accélère de plus en plus.
Ça va très vite.
Un petit polémiste, un polémiste à deux balles, hein, comme il se définit lui-même, votre héros ou anti-héros que l'on reconnaît dans la rue, un coupe-fil comme un autre. Lorsque j'émets une opinion, on ne me prend pas franchement au sérieux, on m'écoute, on fait semblant de réfléchir, on s'offense un peu, puis on passe à autre chose très vite, c'est la règle. Il y en a beaucoup aujourd'hui autour de nous, des petits polémistes comme lui.
Bon, alors écoutez,
vous ne les nommerez pas.
D'habitude, j'écris moi mes romans en écoutant de la musique. Et c'est vrai que j'écoute FIP d'ailleurs, beaucoup, en écrivant.
Bienvenue sur les antennes de Radio France.
Voilà, excellente radio. Mais là, sur celui-ci, j'écoutais beaucoup LCI, BFM et CNews. Pour être sûr de ne pas tomber dans un travers de polémiste comme on les voit actuels, quoi, faire de la polémique pour de la polémique. Moi, je voulais quand même écrire une farce, une comédie d'une certaine façon, en interpellant et en faisant réfléchir sur l'époque actuelle et à venir. Donc, est-ce qu'on trouve beaucoup de polémistes Tout le monde se doit d'être polémique aujourd'hui, d'être polémiste. On se donne une certaine idée d'existence à travers la polémique, ce qui n'est pas forcément utile pour vivre. On n'est pas obligé de polémiquer pour montrer qu'on existe et qu'on a une idée. Les idées peuvent être douces et drôles ou satiriques ou cyniques. J'ai l'impression qu'on n'a plus droit au cynisme d'une certaine façon. C'est ce que je voulais aussi aborder dans ce roman, cette idée du cynisme et de la satire. Parce que la satire sera encore autorisée, en fait, dans quelques années. Elle sera contrôlée, c'est sûr.
La vôtre, en tout cas, elle est plutôt noire, plutôt grinçante.
Ouais.
Elle l'est, à travers quand même les quelques déboires qui vont arriver à votre personnage, protagoniste.
Une fois qu'on se donne comme titre...
Ça passe quand même. Hein.
Non, mais une fois qu'on se donne comme titre Le Petit Polémiste, on est obligé d'y aller, quoi, ouais. On ne peut pas être timide. Donc moi, je suis d'habitude assez réservé, assez timide, mais là, j'étais obligé de pousser un petit peu le curseur un peu loin.
Et on va vous mettez plutôt le paquet. On va quand même raconter de quoi il s'agit, comment, pourquoi, alors que cette profession est déclarée au ministère, reconnue plutôt d'utilité publique, comment il va déraper ?
Ah, comment il va déraper ? Eh bien, dans un dîner, il sera un peu éméché, va dire une phrase un peu sexiste. Et de là, toute sa vie part en vrille, tout s'écroule, et une phrase sexiste un peu idiote, quoi. J'ai pas envie de la révéler, en fait, il vit dans une époque où on ne supporte plus rien. Donc, même dans un dîner au sein de l'intime, du privé, il va être dénoncé par les invités, et il aura un procès sur le dos, et sa vie part en vrille.
Quel est le point de départ de ce roman ? Parce que vous avez lu les chaînes d'infos en continu pour vous accompagner.
Non, mais ça, c'était assez anecdotique. En fait, j'étais sur FIP et après, je me dis, bon, je vais allumer LCI quand même pour BFM et les autres pour voir comment ça se passe.
Mais comment l'idée est venue ?
Comment l'idée est venue ? Moi, j'ai peur de la foule et tous ces mouvements de foule actuels. Donc, en 2017, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudrait que je regarde l'actualité de 2017, mais c'était quoi le mouvement MeToo ? C'est 2018, 2017, et tous ces mouvements de foule, tout le monde pense la même chose, tout le monde condamne en même temps, et je trouvais ça un peu angoissant. Donc je me suis dit que j'allais écrire là-dessus parce que ça peut toucher finalement n'importe qui, n'importe quel citoyen. En fait, ce qui était compliqué dans ce roman, c'est que la pensée, la bien-pensance, elle est fondée sur des très très belles idées. Mais après, comment en rire, c'était compliqué. Puisque finalement, c'est vrai, le MeToo, tout ça a une légitimité, tout ce qui se passe dès qu'il y a Mais comment est-ce qu'on. Pourquoi ça se transforme en mouvement de foule où tout d'un coup tout est condamné, on ne sait plus quoi penser. En fait, moi je suis un gaffeur un petit peu. J'ai réalisé que j'étais un gaffeur, que dans un dîner, je peux lâcher. C'est vrai, des trucs qui ne correspondent pas forcément à ce que je pense. Or, il faut être, on n'a pas droit à l'erreur.
Ou on n'a plus le droit à l'erreur.
On n'a plus le droit à l'erreur. Ce qu'on avait droit. Ouais, on n'a plus le droit à l'erreur, disons. Et donc, je suis terrorisé, c'est vrai, dès que même là, quand je m'exprime, je fais. Il y a quand même un boulot derrière, ça ne se voit pas, mais de filtre, je fais gaffe à ce que je raconte, quoi. Et on va aller de plus en plus dans cette direction, dans notre vie privée et intime. Parce que, je sais pas, je parlais dans un dîner aussi il y a quelques temps. Et en fait, si on n'est plus d'accord, il faut être d'accord avec tout le monde. Or, c'est très bien de ne pas être d'accord, forcément, quoi. La contradiction, elle est salutaire pour l'être humain. On a besoin de ça. On a besoin de contradictions, de médiocrité, d'erreurs et de gaffes. Sinon, on n'est pas des êtres humains. Mais...
Et le principe de la satire, c'est que vous regardez à la loupe des questions contemporaines, comme celle des identités de genre qui prennent beaucoup de place dans nos débats aujourd'hui, celle de la lutte aussi contre les violences sexistes. Vous évoquiez le mouvement MeToo qui a accompagné l'écriture de ce roman en caricaturant ces débats, parce que c'est le trait aussi du romancier, du satiriste, que de vouloir grossir les événements et le trait des personnages et ces débats en question, en les poussant à l'extrême. Qu'est-ce que vous vouliez montrer ?
Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des grands militants, que c'est des rêveurs, bon, des médiocres, et eux, ils ne savent pas, voilà, ils vont pas forcément, il y a des manifs dans mon livre, dans mon roman, et pour célébrer le réchauffement climatique, pour, contre le féminisme, contre le, voilà, les misogynes, etc., mais c'est, il y a des gens qui s'en foutent, mais qui n'ont pas forcément d'opinion, qui n'ont pas forcément envie d'aller le jour de la manifestation, d'aller montrer qu'eux aussi sont d'accord. Il y a des rêveurs, des gens qui se posent des questions. Donc c'est un petit peu le livre avec un héros un peu médiocre, qui écrit des chroniques un peu médiocres, de petits polémistes. Il est petit polémiste parce que le gars, c'est pas un génie, quoi. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'on n'a pas tous forcément une opinion précis sur les choses, et ça fait pas de nous des salauds ou des voilà, si je fais pas de vélo dans Paris, c'est que je suis pas forcément un gros pollueur.
Vous avez un 4x4?
J'ai pas de 4x4, mais je prends le métro, mais bon, voilà quoi, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases.
Il y a des doux rêveurs qui ne connaissent pas forcément tous les codes, dites-vous, Ilan Duran-Cohen, des codes de la bienséance aussi, et notamment.
Et on n'a pas envie de les connaître.
Des dîners en ville, et qui n'ont pas envie. Dans votre roman, le petit polémiste, votre protagoniste évolue dans ce monde, dans un monde où les comportements sont codifié, justement, où il y a des catégories qui ont été créées pour tout et où il vaut mieux entrer dedans parce que l'indétermination, c'est le pire, en fait. L'administration est informée de tous nos faits et gestes dans ce monde imaginaire. Chacun surveille son
imaginaire.
Prochain. Imaginaire encore, puisqu'on est dans une fiction, c'est un roman.
Que tout ce que vous faites, de toute façon, est surveillé. Je pense. Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir une petite dose de parano aujourd'hui. Tout est enregistré de toute façon. Même là, on est enregistré par des caméras. Donc, les caméras sont omniprésentes et le micro aussi. Mmh. Pas dans le professionnel uniquement, partout. Ça, c'était ma conviction et là-dessus, j'ai forcé le trait en écrivant. Je vous ai interrompu, pardon.
Comment vous qualifiez ce modèle de société ou ce nouveau modèle de citoyenneté?
C'est là où je suis rattrapé par la réalité. Ça devient un modèle à la chinoise, quoi. On est hyper surveillé. Il faut, pour être un bon citoyen, il faut traverser dans les clous. Et si on traverse pas dans les clous, on est un mauvais citoyen. Et donc, ce modèle de citoyen. Et c'est pas forcément des dictatures ou des, c'est juste, tout est complètement vissé, codifié. Il faut appartenir à une case, à une référence. Et si on n'appartient pas à une référence, à une case, mais on est un mauvais citoyen, on est un outcast, quoi, comme disent les Américains. On est dans la marge. Or, j'ai pas forcément envie de me définir.
Quand 99,9% de la population se complaît dans la dénonciation, plus personne n'est collabo. remarquez-vous dans ce roman? Une société où chacun surveille son prochain, une société où tous nos comportements sont codifiés. En 1975 déjà, un certain Michel Foucault nous mettait en garde contre l'usage abusif de la norme.
Je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout, dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans les ateliers, dans les usines, dans les administrations, comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir les individus.
Voilà, vous êtes d'accord avec ça? Il faut que toutes ces questions restent en débat, que le risque principal aujourd'hui, c'est d'imposer des points de vue, d'imposer des pensées par la norme, avec quoi? Le risque d'une dérive, d'une société trop vertueuse aussi?
Ultra vertueuse, ultra normalisée, ultra prévisible, sans spontanéité, sans innocence, sans droit à l'erreur. Je sais pas, moi j'ai pas envie de vivre là-dedans, hein. Je pense qu'on y vit et qu'on y va, quoi. Moi j'ai pas envie d'aller dans un dîner en étant terrorisé à l'idée de faire c'est quand même terrorisant aujourd'hui, mais comme je voulais aussi, parce que là, tel que je le dis, ça paraît pas drôle, mais j'ai dû forcer le trait un petit peu parce que j'avais envie d'en rire quand même et de prendre le droit d'en rire, parce que peut-être que c'est un droit qui, ça aussi, va partir en vrille, quoi, sera effacé. C'est pour ça qu'il y a des polémistes assermentés, parce que tout doit être contrôlé. Je pense que tout, d'une certaine façon, tout sera contrôlé.
Ruben a insisté pour déclarer sa résidence chez moi. Ils lui ont parlé du risque de dégradation sensible de son mapping. Il s'en foutait, il comptait bien le pourrir d'une façon ou d'une autre. C'était un sentiment délicieux de cramer son crédit social et d'être fiché à vie comme irresponsable et indéfinissable. Une sorte de délinquant soft, écrivez-vous, Ilan Duran Cohen. Une sorte de délinquant soft puisqu'on choisissait de se dégrader ou de ne dégrader que soi-même. Voilà, il y a aussi des tentatives de rébellion dans ce roman, des tentatives de sortir de la norme, des comportements codifiés, publics comme privés. Alain, votre protagoniste, vit quand même, lui, au rythme de la cote et de la décote de son mapping. Qu'est-ce que c'est?
J'avais écrit ça donc au début des premiers brouillons, le mapping, et puis quelques années plus tard, je feuillette un magazine et je vois que ça existe. Je me dis merde, ça existe. Le mapping, c'est le crédit social à la chinoise, quoi. Il existe aujourd'hui, donc ils ont les softwares.
Crédit citoyen.
Crédit citoyen. Où tout est bon. Chez moi, il est un peu plus poussé parce que tout est analysé, ce que vous consommez, votre consommation d'eau, ce que vous mangez, quels sont vos amis, ce que vous publiez sur le, est-ce que vous allez sur l'internet, parce qu'il faut aller sur l'internet pour, il faut avoir des amis, il faut avoir des clics. Donc c'est une façon de, voilà, un rating du citoyen. C'est un peu le TripAdvisor étatique, quoi. Avec des étoiles, etc. C'est ce qu'on vit aujourd'hui tous. On a tous envie de cliquer, de noter. Donc nous-mêmes, nous serons notés.
Et alors parfois, notre crédit, notre notation peut drastiquement baisser quand on a commis un faux pas ou quelque chose qui n'est pas dans la norme. Comme on peut tenter de la faire remonter, obtenir quelques bonus. C'est le cas d'Alain qui, à un moment, décide de se porter volontaire auprès de diverses associations humanitaires ou écologiques, d'adopter un chien, de donner du sang, un organe, peut-être qu'un rein suffirait, dit-il, à me sauver. C'est prévu par la loi, c'est automatique pour faire remonter le mapping de quelques malheureux points. Mais ça me saoule un peu, les âmes vertueuses déclarant au ministère ma bonne volonté, mon sérieux, mon humanité, mon honnêteté. Ce dîner était un accident, votre honneur. Elles attesteront que ces travaux d'intérêt généraux sont véridiques, pas du bidon. Mon sang au moins est sain et universel et mon crédit social repassera au vert. Un système de crédit social, comme il en existe déjà en Chine, nous dites-vous, Ilan Duran Cohen, ou dans les pires cauchemars aussi des scénaristes de Black Mirror, une autre dystopie télé cette fois, notre avenir dans un monde virtuel dominé par l'intelligence artificielle surconnectée.
Bonsoir madame, comment allez-vous?
Merveilleusement bien, merci.
Je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé.
Quoi?
J'ai pris mon billet il y a des semaines. Ma meilleure amie se marie.
Je suis vraiment désolée.
Je me dois d'être présente.
Oui, je comprends. Laissez-moi regarder ce que je peux faire.
Merci.
Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier.
Oh, ça tombe bien, c'est ma note.
J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée.
Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi.
Vous m'envoyez désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous.
Mais il ne me manque presque rien.
Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement.
C'est pas la merde.
Oh, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage.
Pouvez-vous appeler votre responsable?
Je n'ai pas le droit.
Je t'ai demandé d'appeler ton responsable.
C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le manque de respect.
Veuillez m'excuser,
je ne voulais
pas.
Je dois m'occuper de cette dame, s'il vous plaît.
Non, 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 non.
Laissez passer la prochaine cliente, madame.
Non, non, trouve-moi un putain de vol.
Je viens d'appeler la sécurité.
Afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point, de façon temporaire. Je vous demande instamment de quitter cet aéroport. Merci.
Voilà, et votre roman montre aussi comment la statistique a envahi nos vies. Comme le dirait le mathématicien Olivier Rey, Alain, votre protagoniste, va notamment voir sa notation donc citoyenne abaissée suite à ses premiers propos sexistes. Après, ça va être la dégringolade. Vous ressentez-vous au quotidien cette hantise du contrôle social ?
Ben, je la ressens moins aujourd'hui parce que j'ai écrit le livre, quoi. Mais oui, je la ressens. Alors, je suis peut-être un peu parano, j'en sais rien, mais oui, on est contrôlé constamment, le contrôle social.
Vous la soignez comment, cette hantise ?
Ben, en écrivant, hein, finalement, c'est la liberté que j'ai. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé le petit polémique, je me suis dit que ça allait être mon dernier livre et qu'il fallait que je balance toutes mes peurs, mes hantises et que j'en ris. Sinon, on peut pas s'en rire sans humour, sans farce, moi je peux pas survivre. Mais le problème c'était que c'était assez casse-gueule. Mais c'est vrai que c'est un exutoire, le rire et l'humour. Donc on peut parler des pires choses et si on arrive à en rire, c'est un petit soulagement. On achète du temps, quoi.
Et en fait, ce sera pas votre dernier livre ?
Non, j'espère pas. Non, parce que c'était compliqué à écrire, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis marré. Après, la question, c'est est-ce que les autres allaient se marrer aussi ?
Parce que vous n'y avez pas tout mis ? C'est aussi pour ça que ce ne sera pas le dernier ?
Ah non, là, j'ai l'impression d'avoir tout mis sur ce sujet-là. Mais après, encore une fois, je suis rattrapé par la... C'est un livre qui a été écrit avant le Covid. Vraiment, il a été terminé quelques mois avant. Donc, je ne pensais pas que j'allais être autant rattrapé par la réalité. Je ne pensais pas que pour sortir dans Paris, il allait falloir des attestations et des cases et des machins. Donc, j'ai rien inventé, Phil.
C'est un livre ou un roman qui pensait déjà le monde d'après. Ce monde, évidemment, vous ne le désirez pas comme tel, mais autrement. Il y a un moment, le mot « ennui » qui revient assez joliment dans le livre et dans la bouche de votre personnage. On respire mieux, mais on s'ennuie aussi. Ça peut tuer l'ennui. C'est ça que vous redoutez, une société où on s'ennuie, une société où la légèreté soit plus de mise ?
La légèreté, mon obsession, c'est la légèreté, la spontanéité et l'innocence, enfin toute notre enfance finalement, tout ce qu'on a de... On tue l'enfant en nous en permanence, on doit être des adultes. Et je me suis dit, en fait, on doit être aujourd'hui, les grandes vertus, c'est... Alors je ne veux pas vous choquer, mais on doit être responsable, engagé et solidaire. C'est les trois piliers aujourd'hui de notre... fonctionnement vertueux, finalement. Ah, il est responsable, il est engagé, il est solidaire. Mais il y a des gens qui savent pas être, qui ont envie de partir un petit peu en vrille, de déraper un petit peu, mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, donc ils sont peut-être ni engagés, ni solidaires, ni responsables. Je pense que l'être humain, c'est malheureux à dire, mais a besoin d'une part d'irresponsabilité, d'une part de médiocrité, une part de flou. Or, le flou, c'est la hantise actuelle. On ne veut pas de flou. Tout doit être clair, numérique.
Et dans cette veine-là, il y a la présence de plus en plus forte de l'algorithme dans nos vies, rassurément aussi dans celle de votre héros ou anti-héros Alain, avec la déshumanisation qui est à l'œuvre. Il va être convoqué un moment par la justice et il va devoir, le pauvre, répondre à un interminable questionnaire sur les valeurs de la société. Et c'est pas le juge, c'est l'algorithme qui va juger ensuite de sa culpabilité. C'est vraiment un système où l'algorithme, la codification est entrée dans tous les pouvoirs et contre-pouvoirs de nos sociétés. Vous évoquiez aussi ces micro-enregistreurs. On le voit avec Fabien, hein, qui craint qu'il s'immisce dans tout notre quotidien. Et vous écrivez qu'il y a aujourd'hui 10 micros par habitant, en tout cas dans votre roman. Autant le législateur a su maîtriser l'usage des caméras pour assurer l'équitabilité de vivre ensemble, autant il s'est laissé complètement déborder par la facilité avec laquelle on opère des enregistrements sonores qui ont tous valeur juridique. Je suis bien placée pour le savoir. L'enregistrement est devenu plus dangereux qu'un regard insistant ou mal placé. Faites attention à ce que vous dites, faites attention aussi à vos faits et gestes. Ilan Duran-Cohen, vous êtes avec nous jusqu'à 13h30 sur France Culture et on va partir en Israël à la rencontre d'une start-up présentant sa découverte, extrait d'un documentaire, Tous surveillés, de Ludovic Gaillard et Sylvain Louvet. Vous allez voir que la reconnaissance faciale, c'est pour demain, voire pour aujourd'hui.
Voici comment fonctionne l'intelligence artificielle. Tout d'abord, on détecte le visage. Ensuite, on en extrait un modèle mathématique comme une empreinte digitale. C'est un modèle mathématique complet qui modélise votre visage et à la fin, il sera représenté par 500 millions de chiffres. Si je vous présente maintenant 500 photos de suspects, et que je vous les montre comme ça, vous ne vous souviendrez peut-être même pas d'un seul de ces visages. Le système actuel, lui, peut apprendre 500 images en moins d'une seconde et les identifier dans la vie réelle. C'est quelque chose que le cerveau humain ne pourra jamais faire. Aujourd'hui, notre entreprise est la plus importante du monde occidental en termes d'effectifs. Nous sommes leaders dans ce secteur. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. Ok, ça donne un petit aperçu. Et même dans le pays d'où vous venez, la France, c'est bien ça. Je pense que tout le monde sait que nous sécurisons aujourd'hui Nice, par exemple, là où l'attaque terroriste a eu lieu. Nous partageons votre douleur. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas, d'accord? Et je suis de tout cœur avec vous. Nous faisons tout ceci pour vous protéger, les gars. Pour que vous soyez plus en sécurité. La logique voudrait que cette technologie soit utilisée partout pour nous aider à sécuriser la planète.
Voilà, on l'entend, là, la mise en balance de deux valeurs qui semblent, ou notions essentielles aujourd'hui, la transparence d'un côté et la sécurité de l'autre. C'est comme ça que ces principes rigides sont en train de se mettre en place au nom de cet équilibre-là qui est en train de mal tourner.
En plus, c'est sérieux, c'est terrorisme, sécurité. On comprend, mais quand j'écoute ça, j'ai envie de me dire, mais lâchez-nous les start-up, quoi. Pensez plutôt à faire des reconnaissances émotionnelles, on a envie de devenir babacool et de dire, mais apprenez-nous à nous aimer plutôt qu'à nous reconnaître et à être terrorisé par l'autre. Mais bon, c'est la réalité en même temps. Donc c'est pour ça que on peut pas échapper à ça. Il y a une réalité et le rêveur, lui, veut échapper à cette dure réalité. Mais ça va aller de pire en pire, non? Enfin, c'est moi qui vous pose la question. J'ai l'impression que ça va aller de pire en pire. C'est nécessaire. C'est un mal nécessaire, peut-être. J'en sais rien. Il n'y a pas de fin, de toute façon, à la sécurité.
Ce que vous montrez par le roman, c'est aussi comment la surprotection de l'État, la surprésence de l'État n'empêche pas ou n'exclut pas l'exercice d'une forme de violence entre les individus. Ça n'empêche pas la fragmentation presque à l'œuvre de nos sociétés.
Mais c'est-à-dire, il y a un mot, moi, qui me touche, c'est que quand on demande à quelqu'un ou à un jeune, ah, comment tu vas, il vous dit tranquille, tranquille. On veut être tranquille. Et c'est le comment ça va, bah cool, ça va. Il faut être cool et tranquille. Et je sais pas si c'est forcément possible avec l'être humain d'être constamment cool et tranquille. C'est vrai que c'est l'obsession de tous, c'est de pas s'emmerder avec les uns, les autres. D'où dans mon roman des ghettos, il y a plein de ghettos, de gens qui s'enferment et qui veulent surtout rester tranquilles et ne pas avoir avoir des interactions avec les autres qui sont potentiellement dangereux pour cette tranquillité.
Cette vie en communauté, en fait.
On est replié sur nous-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avec le Covid, on est encore plus replié sur nous-mêmes. Quand on est vraiment isolé des autres, on apporte des masques et tout. Donc c'est un truc que j'aurais adoré vivre en écriture.
Mais vous êtes paradoxal quand même, contradictoire. Vous disiez qu'il fallait aussi appeler à une part d'irresponsabilité de chacun.
Ah oui. On a droit à la contradiction, non? Ouais. C'est pourquoi je milite.
Sur les sujets que vous abordez dans ce livre, on va vite revenir aussi sur la question, parce qu'elle est centrale aujourd'hui, des rapports entre les sexes, entre les genres, mais il y a aussi celle de l'environnement, à propos de solidarité. Cette angoisse écologique, ces excès aussi de l'écologie radicale, de ce qu'il nomme les Khmers verts, ça c'est le philosophe un peu ronchon, Régis Debray, qui en a fait un livre intéressant, Le siècle vert, paru cette année chez Gallimard. Vous imaginez un peu à sa manière une société qui aurait élevé la durabilité au rang de valeur universelle, une société où toutes nos actions sont quand même revues et corrigées en fonction de l'impact environnemental de nos faits et gestes. Là encore, c'est pas le vivant ou la nature et l'importance de les protéger que vous critiquez, mais cette idée d'une écologie qui serait faite dogme, en fait. Vous craignez tous les dogmes.
J'ai peut-être horreur du dogme, quoi, je me dis. C'est-à-dire, quand on parle d'écologie, ou qu'on disons, voilà, j'invente, hein, je dis, oh non, moi, le réchauffement, bon, ok, ça existe, mais c'est un blasphème, c'est devenu un blasphème. Mais
genre, vous fait passer dans le camp des climato-sceptiques.
Alors que non, ok, il y a une réalité, oui, il y a urgence, mais on n'a pas le droit d'en rire. Or, je prends moi la liberté d'en rire. Et c'est devenu une religion, quoi, d'une certaine façon, l'écologie. Avec ses blasphèmes, sa déesse, ce dogme permanent sur qui nous assomme. Voilà, donc quand ça devient une religion, on a le droit de ne pas être dans la religion non plus. Enfin, c'est plutôt amusant d'être un petit peu en dehors. Encore une fois, je reviens là-dessus, si je prends pas mon vélo, je suis pas un salaud, quoi.
Vous avez fait quoi comme école du rire, vous?
Ah bah aucune, hein, moi je suis... je sais pas, c'est super dur, j'ai aucune idée. Hein,
Vous avez pas vos maîtres?
Ah, comme école... Ah ouais. Bon, ouais, comme j'ai grandi avec Louis de Funès, hein, donc peut-être, j'en sais rien, ou... quand j'étais plus adolescent, Philippe Roth... est-ce qu'il faut forcément se prendre au sérieux? L'écologie se prend peut-être très très au sérieux, donc il faut leur dire de rajouter un peu de rire, ça sera peut-être plus facile de faire passer toutes ces belles idées, parce que les idées sont belles, mais avec une petite pincée d'humour, c'est plus facile.
Alors, les hommes et les femmes, sera-t-on obligé demain de se travestir quand on est un homme pour tenter de se protéger de la vindicte des féministes telles qu'elles apparaissent aussi dans votre roman? Les nominations de Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, vous savez, c'est en débat aujourd'hui. Elles ont beaucoup divisé, justement, les féministes. Que dit le garde des Sceaux de MeToo? Est-ce qu'il faut vraiment condamner ces paroles? On l'écoute.
Je suis féministe. J'ai dit que MeToo avait libéré la parole de la femme et que c'était un bien. J'ai dit aussi qu'il fallait absolument, et je l'ai écrit, permettre aux femmes les plus timorées de dire les choses. J'ai dit qu'il fallait condamner, j'ai dû dire les salauds à l'époque, les salauds qui se tenaient mal avec les femmes. Mais pour autant, j'ai ajouté que la justice ne se rendait pas sur les réseaux sociaux, que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que la justice devait intervenir.
Il fallait pas le nommer pour vous?
Quoi, il fallait pas le nommer?
Éric Dupond-Moretti, quand vous entendez ce type de polémique, ce qui lui est reproché aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a encore trop d'outrance?
Ben non, mais... Bon, encore une fois, moi je voulais écrire une farce, donc c'est super compliqué, parce qu'il y a... Les féministes ont raison, évidemment, 100% raison, mais est-ce qu'on peut en rire? Et MeToo, 100% raison, tout ça est dégueulasse, mais est-ce qu'on peut en rire? Donc, est-ce qu'il fallait nommer le ministre? J'en sais rien, moi je suis pas au gouvernement, et c'est bizarre de toute façon, un ministre, il devait être sur Europe 1, je crois, après, enfin je sais pas, là il y a une confusion des gens, j'ai fait un film qui s'appelait La confusion des gens, je pense qu'on y est, mais c'est vrai que tous les hommes, en fait, ne sont pas des salauds. Donc, j'ai écrit un livre aussi là-dessus. En fait, vous me parliez tout à l'heure de la base de le point de départ du livre, c'était écrire un livre sur l'obsolescence masculine. Et bon, après, ça a dérivé sur la liberté, parce que c'est après, je me suis dit, non, c'est plutôt un livre sur la liberté, plutôt que l'obsolescence masculine, ou peut-être, ou bien ça va de pair, mais tous les hommes ne sont pas des salauds, donc, et puis, de toute façon, oui, il fallait le nommer. Enfin, il est très bien en ministre de la Justice, aussi bien que Rachida Dati en ministre de la Culture, quoi.
Et il aide à réfléchir.
De la justice.
Ouais, il aide à réfléchir, comme ce roman, à cette masculinité qui est aujourd'hui en quête aussi d'identité. Pour tenter de, là encore, exister à travers ou à côté des revendications féministes qui se jouent aujourd'hui. Votre héros, il incarne quand même une certaine idée hein, de l'ordre patriarcal à l'origine. Hein, et c'est aussi ça qu'il va devoir remettre en question.
Ouais, c'est un mec un peu paumé quand même, mon héros. C'est un anti-héros, donc l'ordre patriarcal, c'est plutôt matriarcal dans le roman, puisque c'est sa mère qui est une femme très très forte, puissante, qui l'aide, et lui, par sa phrase, déstabilise toute la famille, mais c'est plutôt un matriarcat dans mon livre, d'ailleurs dans tous mes livres, c'est plutôt des matriarcats.
Il dit « Je suis Alain Colang et mon côté féminin restera inexploré ».
Oui.
Vous dites pareil ?
Non, c'est un roman, c'est de la fiction, donc... Le mien peut rester peut-être exploré, il n'y a pas de problème. C'était la base, quoi, l'obsolescence masculine.
Ça va être le sujet du prochain roman.
Oui, j'adore. Hein,
finalement.
Ouais.
Merci beaucoup à vous, Ilan Duran-Cohen, d'avoir été avec nous. Le petit polémiste. C'est pas facile de faire un roman sur la polémique, parce que forcément, on tombe dedans. Mais elle est autorisée dans ses lignes, et largement, ça paraît chez Actes Sud. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous.
Merci.
La Grande Table, le magazine de la culture et des idées de France Culture. Vous pouvez nous rejoindre sur le fil des podcasts si vous le souhaitez ou trouver toutes les informations en lien avec l'émission. C'est sur franceculture.fr. La Grande Table, une émission programmée avec soin par Henri Leblanc, Oriane Delacroix et Jean Bulot, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec l'aide précieuse d'Adouk Delfino et de Madeleine Martineux. Elle est réalisée, cette émission, par Thomas Beau avec Cindy Le Krumelec.